France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons dès le début de ce journal au procès à Paris des CRS, soupçonnés d'avoir matraqué des gilets jaunes alors qu'ils n'opposaient pas de résistance. Soit l'une des premières affaires jugées visant des violences policières durant ce mouvement de mobilisation, 7 ans après les faits. On parlera élections municipales, on détaillera la nouvelle politique énergétique pour la France. À suivre également une nouvelle réunion des dirigeants de l'UE aujourd'hui pour discuter compétitivité du vieux continent. Et puis avec notre invité, on se demandera si les sanctions sont un instrument de politique étrangère encore efficace. Des regrets, oui, mais des excuses, non, face à des victimes encore traumatisées. Si certains des CRS, jugés depuis lundi pour avoir matraqué en 2018 des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un fast-food à Paris lors d'un rassemblement de gilets jaunes, admettent avoir manqué de lucidité, la plupart soutiennent n'avoir fait que leur travail et expriment par ailleurs l'amer sentiment d'avoir été abandonnés par leur hiérarchie dans un contexte de violence insurrectionnelle. Alors on connaîtra cet après-midi les réquisitions du procureur dans cette affaire. Et en attendant, ce matin, c'était au tour des supérieurs directs des 9 prévenus de venir s'expliquer à la barre. Florence Thurn, bonjour.
Bonjour.
Alors précisons tout de suite que tous ces supérieurs ne sont pas poursuivis, même si le commandant des 9 prévenus avait lui demandé à l'être. Et ce matin, à la barre des témoins, Florence, il a très clairement mis en cause l'autorité préfectorale qui a coordonné les opérations de maintien de l'ordre lors de cet acte 3 des Gilets jaunes.
Oui, il s'avance à la barre en tenue, démarche ses voix énergiques. Aujourd'hui, je ne pense pas que je sois à ma place en qualité de témoin. À Seine d'emblée, l'ancien commandant de la CRS 43, j'aurais dû être sur le banc, à côté de mes hommes et certains membres de la chaîne hiérarchique également. Sa mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit avait été envisagée durant l'instruction. Lui-même l'a demandé par écrit quand il a bénéficié d'un non-lieu. Il revient sur ce 1er décembre 2018, les barricades et des violences jamais vues autour de l'Arc de Triomphe. Dès le matin, lui commence à lancer des signaux d'alerte, des appels à l'aide sur les ondes radio. À la préfecture de police, la DOPC qui coordonne les opérations de maintien de l'ordre, il y a aussi des murs de caméras, explique-t-il. Mais la DOPC refuse d'envoyer les renforts qu'il demande. Pourtant, affirme le témoin, il y avait 9 unités de CRS en réserve qui ne servaient à rien et 5-6 autres employés de manière totalement insensé. Une stratégie de gestion totalement inadaptée, des instructions totalement fluctuantes et irresponsables. Il pèse ses mots, inconcevables. Sur leur banc, les prévenus ne le lâchent pas des yeux. À 19h, au moment de l'intervention dans le Burger King, poursuit leur ancien commandant, ils n'ont pas mangé depuis 6h du matin, ils sont à bout. Cette intervention n'aurait jamais dû avoir lieu. On a mis en danger des personnels, on a mis en danger des manifestants. C'est une honte, répète-t-il d'une voix forte. La responsabilité de la chaîne de commandement est une notion importante, y compris au niveau supranational. Mais ceux qui donnent les ordres ne sont jamais responsables. Pour moi, on est dans l'abus de la puissance de l'État et je ne le cautionne pas.
Merci Florence Sturm en direct du tribunal et je précise que le jugement sera mis en délibéré au 17 mars prochain. Eux peuvent être définitivement soulagés. Hier, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu déjà prononcé à 2 reprises en faveur des 3 gendarmes qui, à l'été 2016, avaient procédé à l'interpellation d'Adama Traoré, décédé 2 heures plus tard dans une caserne. Ce qui signifie qu'après 10 années de combat judiciaire, le seul et dernier espoir encore pour les proches de la victime, un jeune noir de 24 France serait désormais d'obtenir la condamnation de la France devant la justice européenne.
Marine Le Pen connaîtra le 7 juillet prochain son sort judiciaire.
Et donc également sort politique. La Cour d'appel de Paris s'est donné presque 5 mois pour statuer donc dans le dossier des assistants des eurodéputés du FN. Et pour la chef de l'extrême droite française, l'équation est très simple. Sa condamnation devra être obligatoirement réduite à 2 ans maximum d'inéligibilité. Une peine d'emprisonnement avec sursis pour pouvoir à nouveau tenter sa chance en 2027. Dans un an, la présidentielle et dans un mois, les municipales. Alors forcément, ce premier tour de chauffe à valeur de test avant l'échéance ultime nourrie par tous les espoirs, voire les ambitions, quand bien même ceux qui cesseraient dès à présent au pronostic développeraient un certain goût pour le risque quand les Républicains croient à leur rêve parisien. Pour le Rassemblement National, le joyau de la couronne serait Marseille. De leur côté, les socialistes aspirent à voler Saint-Etienne et reprendre Strasbourg. S'agissant du parti présidentiel, cette fois-ci extrêmement peu présent au niveau niveau local, le vote sanction ne devrait pas vraiment avoir d'effet. Enfin, chez les écologistes, qui avaient gagné une dizaine de grandes villes en 2020, on espère surtout limiter la casse. Quoi qu'il en soit, le scrutin se tiendra donc les 15 et 22 mars prochains. Et depuis ce matin, les candidats ont désormais 2 semaines pour déposer leur dossier en préfecture. Sous quelles conditions ? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre d'élus, qui sont à 95% des élus municipaux. Ils seront 512 000 désignés le mois prochain lors du scrutin des 15 et 22 mars dans les 35 000 communes que compte le pays. Un candidat ne doit pas nécessairement habiter la commune dans laquelle il se présente. Il faut soit qu'il y réside, soit qu'il y paye des impôts, soit qu'il dirige une entreprise domiciliée dans la commune. De la même manière, un candidat ne doit pas nécessairement être français pour se présenter. Il peut avoir la nationalité d'un autre pays de l'Union européenne. En revanche, il doit résider en France depuis au moins 6 mois et justifier lui aussi d'un lien avec la commune dans laquelle il se présente. Par ailleurs, si la Constitution française autorise un étranger à être élu municipal, elle lui interdit d'être maire ou d'être adjoint. Le maire et ses adjoints bénéficient d'une indemnité mensuelle qui varie en fonction de la taille de la commune qu'il dirige. Pour un maire, elle est de quelques centaines d'euros dans les communes de moins de 1000 habitants, d'environ 2000 euros nets par mois dans les communes de moins de 10 000 et de 5 à 6 000 euros dans les villes de plus de 100 000 habitants. La moyenne d'âge actuelle des élus municipaux se situe aux alentours de 57 ans. Beaucoup sont des retraités, comme plus de la moitié des 35 000 maires que compte le pays. Le plus jeune maire de France, Hugo Biollet, est un Ardéchois de 24 ans. Il a été élu en 2020 à Vinzieux et il se représente. Le plus âgé a 94 ans, élu à Gorges dans la Somme. Il s'appelle Guy Delattre et lui aussi a décidé de se représenter pour un 10e mandat.
Attendu depuis 3 ans, maintes fois retardé pour cause d'antagonisme politique et d'instabilité gouvernementale, la feuille de route énergétique de la France pour les 10 prochaines années, ce document stratégique crucial pour la souveraineté comme la compétitivité du pays, a fini par être dévoilé ce matin. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et a priori, cette copie finale du gouvernement donc vient mettre un coup de frein aux renouvelables.
Oui, avec d'abord des ambitions revues à la baisse pour le solaire. Les objectifs de production sont toujours en hausse, de 55 à 80 gigawatts d'ici 2035, mais avec un rythme de croissance moins rapide que celui qu'espéraient les professionnels du secteur. Arbitrage de l'exécutif face à une demande en électricité qui stagne en France et une surproduction. Mais le secteur qui paye le plus cette situation, c'est l'éolien terrestre. Dossier inflammable localement, sa part dans le mix énergétique est revue à la baisse pour 2035. Priorité au renouvellement des parcs actuels. Quant à l'éolien en mer, la programmation pluriannuelle vise une production à 15 gigawatts en 2035 contre 18 dans les précédentes copies soumises à la consultation du public l'année dernière. Au global, la stratégie de la France reste la même, réduire le poids des énergies fossiles et accroître la production d'énergie décarbonée pour faire passer cette consommation de 42% en 2023 à 60% en 2030. Et pour atteindre ce cap, le schéma retenu par le gouvernement mise donc avant tout sur le nucléaire, avec une production d'ici 2035 relevée à 380 TWh. L'exécutif prend aussi un virage à 180 degrés par rapport à la précédente PPE qui prévoyait de fermer 14 réacteurs. Il n'en est plus question. L'objectif est désormais d'en construire 6 de plus, voire 8 supplémentaires, une option que se laisse Bercy.
Merci Jeanne Serrin.
À un an de son départ, Emmanuel Macron est à l'offensive pour défendre la souveraineté européenne.
Autonomie stratégique, emprunt commun, made in Europe. Depuis le début de la semaine, le président multiplie les annonces en même temps que ses ambitions de grandeur pour le vieux continent et quand certains saluent cette volonté sans faille de défendre une autonomie stratégique de l'UE. D'autres en revanche semblent quelque peu s'agacer de cette forme d'activisme parfois versatile et qui à tout le moins n'est pas sans discordance. Le dernier exemple, le plus frappant, ne remonte qu'à quelques semaines à l'occasion de la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, lorsque Paris avait opposé un non que ses partenaires européens sont toujours en train de digérer. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, il se trouve qu'aujourd'hui même est organisée en Belgique une retraite informelle des dirigeants de l'UE dans un château où la relation franco-allemande, en particulier Fabien, risque d'être une nouvelle fois mise à l'épreuve.
Effectivement, et dans ce décor de vieilles pierres, de tours et de douves, Emmanuel Macron et le chancelier Friedrich Merz ont tenu à arriver côte à côte, souriant ce matin, soucieux d'afficher une image d'unité.
Heureux d'être là avec monsieur le chancelier Merz et de pouvoir avoir cette retraite durant laquelle On va évidemment réfléchir ensemble, mais décider d'un plan d'action aussi très concret. Et je crois qu'on partage ce sentiment d'urgence. La priorité, c'est d'avoir une réaction d'abord à très court terme, qui consiste à mettre en œuvre tout ce sur quoi on est d'accord.
Donc pas l'emprunt commun sur lequel l'Allemagne se montre très réticente, mais oui à l'union des marchés de capitaux et oui à l'accélération des mesures de compétitivité.
Je suis heureux qu'Emmanuel et moi soyons d'accord sur ces questions, comme c'est presque toujours le cas. Je pense que nous allons avancer aujourd'hui pour préparer des décisions que nous prendrons dans un mois au prochain Conseil européen.
Des décisions inspirées du rapport écrit par Mario Draghi fin 2024, qui est justement en train de l'échanger ce midi avec les dirigeants européens.
Merci Fabien Cazot.
La France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, réclame la démission de la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens.
Oui, c'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui l'a annoncé hier devant les députés de l'Assemblée après avoir été questionné sur les propos tenus samedi dernier par Francesca Albanese lors d'un forum en ligne organisé par la chaîne Al Jazeera. Ajra Mohamad, bonjour.
Bonjour.
Le chef français de la diplomatie évoque, je cite, des propos outranciers et coupable, de quoi parle-t-on très exactement?
Alors, on parle d'une intervention qui dure 4 minutes environ. Nous l'avons écouté en intégralité. Et voici l'extrait dont il est question aujourd'hui. Francesca Albanese évoque un ennemi commun.
Le fait qu'au lieu d'arrêter Israël, la plupart des pays du monde l'ait armé, lui ait fourni des excuses politiques, un parapluie politique, ainsi qu'un soutien économique et financier est un défi. Nous qui ne contrôlons pas de vastes capitaux financiers, ni les algorithmes, ni les armes, constatons désormais qu'en tant qu'humanité, nous avons un ennemi commun.
Pour ses détracteurs, il n'y a aucun doute, l'ennemi commun dont elle parle, c'est Israël, l'État. Ce que dément Francesca Albanese, qui dénonce une manipulation, c'était hier sur France 24.
J'ai jamais dit Israël est l'ennemi commun de l'humanité. J'ai condamné comme l'ennemi commun le système qui ne permet pas d'amener en justice et d'amener à une cessation des crimes d'Israël, le système économique, le système financier et disons le système politique.
Alors si ces propos peuvent prêter à différentes interprétations, Jean-Noël Barrot lui estime que Francesca Albanese est effectivement allée trop loin. Il s'ajoute, dit-il, à une longue liste d'autres déclarations jugées problématiques qu'elle aurait tenues depuis le 7 octobre. L'Italienne, qui on le rappelle est juriste en droit international, n'est ni experte ni indépendante aux yeux du ministre. C'est une militante politique, dit-il. La France réclame donc son renvoi et rejoint ainsi une revendication portée par Israël et les États-Unis.
Merci Ajra Mohamad.
Midi et 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Après la révolution, voici venu le temps des élections. Le Bangladesh a commencé à voter ce matin pour élire ses députés et ainsi tourner la page des 15 années du règne de fer de l'ex-première ministre. Sheikh Hasina, emporté en 2024 par une insurrection meurtrière menée par les jeunes de la génération Z, en l'occurrence les leaders du mouvement étudiant qui avait porté donc la contestation au passé un accord électoral avec une formation islamique longtemps marginalisée et sans véritable ancrage populaire. Ce qui pourrait sérieusement compromettre leurs idéaux démocratiques.
Hier, Donald Trump recevait à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avec posé sur la table du bureau ovale le dossier iranien.
3 heures d'entretien à huis clos, contrairement aux précédentes visites, et sans que les deux hommes ne parviennent à un accord clair sur la marche à suivre avec Téhéran. Tout au contraire, puisque cette réunion a surtout mis en évidence les divergences persistantes entre Washington et Tel Aviv en matière de diplomatie et de stratégie de sécurité. En l'occurrence, Donald Trump continue de plaider pour une solution négociée, ce qui ne l'a pas empêché par ailleurs d'annoncer encore récemment une nouvelle salve de sanctions contre la République islamique, de quoi nous interroger sur l'efficacité de cet instrument de politique étrangère. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Florian Louis, historien des relations internationales, par ailleurs membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent et auteur de 1904, Genèse du XXe siècle, paru aux presses universitaires de France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On se souvient qu'en 2015, les sanctions adoptées contre l'Iran avaient permis à l'époque d'aboutir à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. On imagine que ce sont ces mêmes sanctions qui permettent encore d'asseoir Téhéran à la table des pourparlers. Mais concrètement, que permettent-elles aujourd'hui de négocier ?
C'est effectivement toute la question. Il est assez optimiste de dire que ce sont les sanctions qui avaient permis l'accord de 2015. Elles ont participé évidemment à mettre une pression sur les dirigeants iraniens qui ont pu les pousser à négocier. Mais les sanctions, elles datent depuis déjà 79, donc on voit bien que ça ne suffit pas, qu'il a fallu beaucoup d'autres ingrédients. Et pour le dire rapidement et simplement, le problème aujourd'hui, c'est précisément que l'Iran, c'est un pays qui est sous sanctions depuis très longtemps, donc qui est très largement immunisé contre elle. Et c'est beaucoup plus dur de faire plier un pays comme l'Iran avec des sanctions qu'un pays qui se retrouverait du jour au lendemain sous sanctions.
On sait que ces sanctions américaines, comme d'ailleurs celles instaurées par l'Union européenne, ont incontestablement participé à l'isolement de l'Iran. Et paradoxalement, est-ce que cela n'a pas aussi facilité, voire accéléré l'intégration de la République islamique au sein d'organisations non occidentales, auquel cas est-ce que ce revers géopolitique de l'isolation donc iranienne ne viendrait pas démontrer, là encore, les limites de la portée de telles sanctions ?
Effectivement, c'est tout le problème avec les sanctions. Les sanctions, si ça marche, ça marche vite. Dès lors qu'on s'installe dans la durée, on laisse à la personne ou au pays placé sous sanction le temps de développer des circuits parallèles, de s'adapter. Et donc, plus le temps passe, moins les sanctions ont des chances d'être efficaces. Et d'autant plus qu'effectivement, après, on peut toujours en rajouter, faire de nouveaux trains de sanctions. Eh bien, le pays est de moins en moins sensible à celle-ci parce qu'il a développé des circuits économiques parallèles, notamment dans le cas de l'Iran, pour exporter ses hydrocarbures ou pour importer les produits stratégiques dont elle a besoin et que théoriquement, elle n'a pas le droit d'importer.
Il existe, bien entendu, un autre décor où les sanctions sont nombreuses aujourd'hui, c'est la Russie. 19 trains de sanctions au total ont été adoptés depuis février 2022, sans empêcher le Kremlin de poursuivre sa guerre, exactement comme les sanctions contre l'Iran ne l'ont pas empêché de poursuivre son programme nucléaire. Est-ce que vous diriez que nous sommes face à un même cas d'école ?
Oui, on a en plus, entre l'Iran et la Russie, deux pays dont l'économie a une structure assez similaire, c'est-à-dire qui repose beaucoup sur l'extraction et l'exportation d'hydrocarbures, et une capacité à contourner les sanctions occidentales en trouvant des clients qui sont bien contents justement de pouvoir importer ces hydrocarbures à bas coût, compte tenu du fait que les Occidentaux n'en veulent pas, donc ce qui impose des rabais. Donc on est dans un cas assez similaire. Dans le cas de la Russie, on multiplie les vagues de sanctions, mais on voit bien que plus on les multiplie, c'est aussi une forme d'aveu d'échec et que la Russie a développé aujourd'hui des moyens de contourner, si bien que le vrai enjeu, c'est plutôt comment faire vraiment respecter, appliquer les sanctions déjà existantes, plutôt que finalement rajouter de nouvelles.
Et justement, quels seraient les leviers donc qui permettraient aujourd'hui une meilleure et surtout une pleine efficacité de ces sanctions ?
Bien, la difficulté, on le voit bien, c'est qu'en fait, ces leviers, c'est de s'attaquer non pas tant à la Russie ou à l'Iran, qu'aux pays qui leur permettent de contourner ces sanctions, c'est-à-dire notamment la Chine, bref, des pays qui ne sont pas directement nos alliés à nous, occidentaux, mais avec lesquels on ne veut pas non plus se fâcher, qu'on ne veut pas jeter dans les bras de ces régimes totalement hostiles que sont la Russie ou l'Iran. Et donc, on est un peu coincé, parce qu'effectivement, ce sont ces pays-là, ces pays du sud global, comme on le dira rapidement, qui l'Inde aussi, par exemple, hein, qui aident ces pays à contourner les sanctions, parce que aussi, ils ont un intérêt, finalement, à accéder à des hydrocarbures pas chers. Pour l'Inde, par exemple, c'est évidemment très intéressant.
Et a-t-il peut-être d'autres instruments encore de politique étrangère à convoquer ou à allier, disons, à ces sanctions pour décupler leur efficacité ?
Alors, évidemment, les sanctions, on l'a dit, c'est un instrument qui doit servir en appui à la diplomatie. C'est ce qui s'était passé pour le premier accord sur le nucléaire iranien. Il y avait des sanctions qui incitent le régime iranien à discuter, à entrer dans un processus diplomatique. Donc, des sanctions toutes seules, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que, d'un côté, on tende le bâton, les sanctions, et de l'autre côté, on tende la main, ou en tout cas, on tende un siège pour s'asseoir autour d'une table et pour discuter, pour négocier.
C'est bien compris. Merci Florian Louis, donc historien des relations internationales, par ailleurs membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Aline Biette pour la préparation.
C'est un retour en arrière d'une portée inédite dans la politique climatique des États-Unis.
Oui, Donald Trump doit abroger aujourd'hui un texte servant de fondement à la lutte contre les gaz à effet de serre, un revirement qui pourrait avoir bien entendu des répercussions à long terme s'agissant du premier contributeur historique d'émissions réchauffant la planète, d'où la levée de bouclier des scientifiques comme des défenseurs de l'environnement, lesquels espèrent que ce retour en arrière sera contesté en justice. Le dossier pourrait même remonter jusqu'à la Cour suprême, certes majoritairement conservatrice, mais à laquelle les plaignants ne manqueraient sans doute pas de rappeler que c'est l'une de ses propres décisions, justement en 2007, qui est à l'origine de ce texte. Tempétueuse, elle souffle de manière exceptionnelle depuis hier soir sur la France. La dépression hivernale Niels balayera encore aujourd'hui le sud du pays avec des vigilances rouges au cru sur la Garonne, mais aussi au vent violent sur l'Aude ou bien encore aux avalanches en Savoie. C'est ainsi qu'il pleuvra encore aujourd'hui sur les trois quarts du pays. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.